si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Et avant un départ, vous ne rêviez pas au pays inconnu que vous alliez visiter.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
En somme, vous n'avez jamais eu de déception en arrivant dans un pays?
9 fois sur 10, je partais au hasard, dans telle direction plutôt que dans telle autre. Je n'ai pas visité un pays avec une intention précise. Je me laissais embarquer. Alors ça, c'est le vagabondage. C'est alors encore une forme de l'imagination qui, au lieu de mettre en mouvement l'écriture, me mettait moi-même en mouvement et à changer de lieu, à prendre le bateau, l'avion, le train.
Bonjour à tous. Cette semaine, on embarque avec Blaise Cendrars, un auteur qui, plus que tout autre, a placé sa vie et son œuvre sous le signe du voyage et de la bourlingue. Que ce soit, il vient nous le dire, en train, en bateau ou en voiture, de l'Europe à la Russie, en passant par les Amériques. Né Frédéric-Louis Saussaire en 1887, Blaise Cendrars a écrit et réécrit son existence aussi bouillonnante que le XXe siècle qu'il a traversé et marqué de son empreinte avec sa trogne gouailleuse, sa gueule légendaire à l'après-verre et son verbe riche et puissant. Poète visionnaire, écrivain goulu et fécond, le Suisse, naturalisé français, est l'auteur de Bourlinguer, la prose du transsibérien, Emmène-moi au bout du monde, L'or ou L'homme foudroyé. Des romans, des poèmes, des récits fondateurs où finalement, ce qui importe, ce n'est pas tant qu'il ait lui-même voyagé, mais qu'il fasse voyager son lecteur. En juin 2021, 60 ans après la mort de Cendrars, le festival Aux quatre coins du mot de la Charité-sur-Loire en France a mis à l'honneur la bourlingue et son génial inventeur. Et à cette occasion, nous avons rencontré des Cendrarsiens, amoureux indéfectibles de celui qui avait, selon la formule d'Henri Michaud, le voyage dans le ventre. Pour ce nouvel épisode de Compagnons de route, notre série radiophonique de portraits d'écrivains voyageurs, on va donc naviguer en eau trouble sur les traces du plus insaisissable d'entre eux, à travers les mots de Cendrars et de savoureuses archives radiophoniques sur la proue d'un bateau-livre.
En bourlinguant avec Blaise Cendrars.
La bourlingue, c'est un mot qu'il a choisi. Il n'a pas inventé, mais il se l'est à ce point approprié qu'on a un peu le sentiment que le mot est né avec lui.
Parce que c'est un terme de marin, au départ.
C'est un terme de marin, oui, mais enfin, c'est surtout une métaphore filée. Bien sûr, c'est un terme de marin, et Cendrars aimait les voyages en mer, et bon. Et quand il l'utilise, c'est la plupart du temps à propos de voyages en mer. Mais il est bien évident qu'il lui donne un emploi personnel qui est beaucoup plus large. C'est une manière de vivre.
Claude Leroy est docteur en littérature française et grand spécialiste de Blaise Cendrars. Il a dirigé l'édition de ses œuvres complètes et son entrée dans la Pléiade.
La bourlingue, c'est violent. C'est d'abord contre, effectivement, que ça se fait. Contre le vent, contre les courants, contre les écueils, contre tout ce qui vient, effectivement, menacer votre liberté. C'est une exigence de liberté absolue. C'est pas simple, la bourlingue, évidemment. C'est de l'ordre de l'aventure, avec ses risques.
Ou finalement, la destination importe peu, on a l'impression.
Importe peu, vous avez raison.
Ce qui compte, c'est le temps du voyage. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que Blaise Cendrars, durant tous ses voyages, c'était aussi l'époque qui voulait ça, mais a choisi des modes de locomotion, le bateau, vous en avez parlé,
oui.
Qui prennent du temps. Les transatlantiques, bien sûr, à cette époque, prenaient énormément de temps. Et on avait l'impression que, finalement, c'est ce temps-là qu'il aimait. C'était ça, le voyage. C'était la traversée.
C'était la traversée, oui. Le sentiment d'être entre deux mondes, ou entre deux époques, ou entre deux identités, entre deux vies.
Chacun a son démon, j'avais le démon du voyage.
Mais ça représentait pour vous un besoin,
d'évasion,
comme on l'a écrit, je ne crois pas, justement.
Pour vous, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est certainement chouette de voyager, se tremper dans un million de milieux différents, boire des pays comme boire des cocktails, n'est-ce pas? Et puis faire surtout pas mal de mixtures, alors comme shaker, les moyens de transport de l'époque étaient magnifiques.
C'est le démon de... d'abord de quelqu'un qui ne tient pas en place. Pour lui, chacun a son démon depuis Socrate. Le sien, c'est celui du départ. Et ce démon du départ, au fond, on l'a saisi très vite. Lorsque ses parents, il est né en Suisse. Ses parents, à l'époque, et lui, habitaient à Neuchâtel. Il était mauvais élève. Il était insupportable à la maison. Il voulait partir. Et le voyage, ça commence aussi, ça commence par la fugue, ce qui n'est pas une fugue. Ses parents ont accédé à son désir de départ en l'envoyant en Russie, donc chez un compatriote qui était horloger à Saint-Pétersbourg. Ce qui est quand même assez stupéfiant quand on y songe, c'est qu'on était en 1904, qu'il avait 15 ans, 16 ans, et qu'il ne parlait pas russe, et qu'on l'a envoyé dans un pays en guerre. Bon, donc, alors il a passé 2 ans là-bas. Il s'est en quelque sorte, je ne sais pas si le mot convient bien, mais il s'est vacciné contre la vie sédentaire. Il est reparti en Russie. Puis de Russie, il est parti à New York, puis il est revenu à Paris. Et il est devenu un poète parisien qui déjà, avant la Première Guerre mondiale, avait la réputation d'être un grand voyageur. Ce goût du voyage, ça ne fait pas de lui un globe-trotter, si vous voulez. Ça fait plutôt voir en lui un impermanent, quelqu'un qui ne tient pas en place, qui a besoin... au fond, de s'incorporer, si je puis dire, d'incorporer dans sa vie le mouvement perpétuel.
À 15 ans, j'étais en Chine, alors vous voyez que j'avais su user et abuser de la liberté qui m'était donnée par tous ces moyens de transport admirables et qui coûtaient rien. On foutait le camp, on voyageait sans papier, il n'y avait pas besoin de passeport. Et je suis revenu une année en 1910 de New York à Paris en passant par Rotterdam pour 5 dollars. Le dollar valait 100 sous, c'est-à-dire 25 francs. Et j'étais le seul amateur à faire ça, personne n'y allait. Les jeunes d'aujourd'hui ne le croient pas. Mais c'était comme ça. Liberté. Elle n'avait pas de nom, c'était beaucoup plus épatant. Elle n'était pas patentée du tout. Les États ne s'en occupaient pas, ils nous laissaient filer, ils nous laissaient passer. Je veux dire, on n'avait pas de passeport, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de limitation de fric en poche, ni des histoires de change qui se posaient. Et personne ne s'occupait de toi. J'étais bijoutier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais voleur de chevaux, j'ai fait du cinéma. J'ai accompagné les immigrants de Lituanie à New York. Je me suis bagarré avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Sud-Américains. J'ai crevé la faim en allant cueillir des régimes de bananes à l'exploitation de Panama. Je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec du fric, je suis revenu avec la fièvre du fric. Quand on n'y comprenait plus rien, comprenez-vous ? C'était ça la vie.
Il y a une expression qui revient souvent chez Sandrard, qu'on commente un peu, c'est « tout tourne ». Tout tourne. Il écrit partout, de ses premiers textes à ses dernières œuvres, « tout tourne ». Il y a une phrase qui commence par « tout tourne vertigineusement du centre à la périphérie ». Alors tout tourne tout le temps, alors on peut se laisser prendre au jeu et le suivre dans ses tournoiements.
Bastien Mouchet est enseignant doctorant, il est l'auteur d'une thèse sur l'écriture du vertige dans l'œuvre de Blaise Sandrard.
Dans un texte de science-fiction assez surprenant, qui s'appelle « Le Bage, aux antipodes de l'unité », qu'il écrit en 26, il invente le perpetuum mobile. C'est une espèce de machine qui permet de maîtriser le mouvement perpétuel. Et le mouvement perpétuel, c'est l'utopie de Sandrard. Ça serait un mouvement qui ne s'arrêterait jamais. Et donc, dans un mouvement perpétuel, il n'y a jamais de destination. La destination, c'est quand même l'arrêt. Sandrard aime les routes, il n'aime pas les points de chute.
Il aime les bateaux, il aime les trains, il aime les voitures, il aime les ponts, il aime...
Oui, il aime les passages, donc on soit être toujours en passage. Il serait difficile de compter tous les moments où il parle de bateaux, où il s'embarque. Elle est vertigineuse, cette œuvre, ne serait-ce que par le nombre d'ouvrages qu'il a publiés, par les secrets qu'il a entremêlés, par la légende qu'il a créée, par l'écriture, par le fait que toutes ses œuvres sont inclassables. C'est une œuvre de mouvement, c'est une œuvre du voyage, voilà, on la met souvent sous cet angle-là.
Combien, justement, d'ouvrages a écrit Blaise Cendrars ?
Il a écrit une quarantaine d'ouvrages, sans compter beaucoup de textes, de reportages, de textes dans les journaux, de publications annexes, et à chaque fois des textes extrêmement différents, qu'on peut pas classer, qu'on peut pas définir. Je crois que ça, ce serait une grosse erreur de vouloir absolument caler la grille des catégories littéraires sur Cendrars, ça serait vraiment une erreur. Et c'est peut-être aussi ce qui déroute les premiers lecteurs, c'est que a priori, quand on lit l'œuvre de Cendrars, on est pris par ce feu-là, et parfois on est surpris parce qu'effectivement, l'aventure ne se continue pas ou elle se continue ailleurs autrement, par des visions, par des descriptions, et pas du tout par une accumulation d'actions ou une intrigue qui se tiendrait, qui serait linéaire, qui irait de A à Z et qui expliquerait les péripéties qui s'enchaîneraient. Et c'est pour ça qu'il y a différents degrés de lecture, mais c'est ce qui fait toute sa richesse aussi. Je pense que c'est pour ça que Cendrars parle à la fois à l'adolescent et pris de découverte, de voyage, parce qu'il peut être pris par ce souffle-là. Et en même temps, il parle aussi à celui qui a plus vécu, plus lu, ou qui est un lecteur plus aguerri, et qui peut se retrouver dans ces descriptions, dans ces visions, dans ces images que convoque Cendrars en permanence.
Suivre et lire Blaise Cendrars, c'est donc entrer dans un tumulte, inspirant mais sinueux, tant notre homme s'est évertué à brouiller les pistes. En effet, son œuvre, faite de ruptures et de virages, va successivement explorer et épuiser les genres. De la poésie fulgurante et vitale de sa jeunesse, au roman d'aventure, puis du reportage, au récit autobiographique. Mais toujours, Cendrars nous conte le vaste monde et ses tragédies, au plus près de destins fracassés, comme celui par exemple de John Suter. Un pionnier suisse qui, vers 1840, fera fortune aux États-Unis dans l'agriculture, mais finira ruiné par la ruée vers l'or et l'afflux de prospecteurs avides et perfides sur ses terres. L'or, roman publié en 1925 qui retrace cette histoire, sera le premier grand succès international de Cendrars. Mais encore aujourd'hui, son nom demeure surtout associé à un autre texte. Un poème mythique et rythmique de 445 vers qui tient lieu à tous ceux qui le lisent, comme à son auteur, deux billets pour le Transsibérien. Extrait de la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, publié en 1913.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait, comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout.
Ce qui apparaît dans ces récits, vous savez, Cendrars a la réputation, en plus d'être un bourlingueur, d'être un peu mythomane. Donc, ces récits autobiographiques sont à prendre comme il les donne, c'est-à-dire des autobiographies qui ne sont pas tout à fait des autobiographies, qui sont recomposées. Bref, en tout cas, ce qui apparaît à propos de son enfance, c'est le cadet de 3 enfants, et sa mère ne s'est pas beaucoup occupée de lui. Donc le silence de la mère. Le silence de la mère et l'absence du père. L'absence du père qu'il présente comme un inventeur malchanceux, un peu coureur. Bon, il faisait l'amour dans les trains, dit-il.
Alors son père voyageait déjà beaucoup. Son enfance était quand même déjà placée sous le signe de l'errance, on peut dire. Il y avait de ça.
Il y a effectivement un long séjour à Naples, qu'il évoque dans Bourlinguer. Qu'il a aussi, qu'il évoque, qu'il transpose. Son père, au fond, c'est un personnage de Cendrars à l'avance, mais un personnage raté, pas flamboyant, si vous voulez, comme le général Suter ou Daniac ou John Paul Jones, qui sont ces héros romanesques. Bah, lui, c'est un raté. Il le présente comme un raté, son père. Un brave type. Bon, mais à la maison, il était méprisé par sa femme. Et il n'avait pas d'autorité sur les enfants. Le contre-modèle de ce qu'il rêve de faire comme aventure dans la vie. Ce lien familial, effectivement, n'est pas très fort. Il l'a ressenti, ce lien, comme une attache. Et il a voulu s'en défaire très vite, se dégager de sa vie. La meilleure façon de se dégager de sa vie, c'est d'abord de la réinventer sans cesse et de la réinventer plume à la main, de l'écrire, de la réécrire. Il a été appelé Frédéric Sauzère. Le Sandra est un pseudonyme. Braise, cendre. Braise, cendre. Ce sont les attributs du phénix. Être toujours entre braise et cendre, entre mort et renaissance, effectivement, c'est un programme de bourlingue, naturellement, beaucoup plus qu'un nom. Un journaliste lui demandait un jour, malicieusement, « Blaise Sandrard, c'est votre vrai nom ?» Il répondait, « C'est mon nom le plus vrai. » Et de même que le pseudonyme est son nom le plus vrai, de même la vie qu'il s'accorde est sa vie la plus vraie. Et elle est faite, effectivement, de nombreux, pour en revenir au voyage, de nombreux voyages en plus. Il évoque son séjour en Chine. On sait qu'il n'a jamais été en Chine. Bon, il y a des tas de choses de genre. Il évoque ses voyages en Afrique. On sait qu'il n'a pas été en Afrique. Il a fait, en tout et pour tout, un séjour à Dakar. Enfin, un séjour, une escale à Dakar, sur la route du Brésil. Mais bon, il agrandit sa vie aux dimensions dont il rêve.
Sandrard va vous lire lui-même quelques pages de Bourlinguer. Il s'agit ici de souvenirs d'enfance, de toute petite enfance, puisque Blaise Sandrard n'avait encore que 4 ou 5 ans, mais il n'en était pas à son premier voyage quand nous le voyons sur le pont, voyageant avec sa maman d'Alexandrie vers Naples.
Au départ d'Alexandrie, notre père nous avait présenté au commandant Agostini, un sarde malingre, fébrile, à la barbe et aux cheveux se rejoignant, avec ses épais sourcils très noirs, pour lui faire un masque pileux sous sa haute casquette dorée. Et le commandant m'avait confié à un matelot de pont, Domenico, un géant, cependant que mon frère et ma sœur jouaient dans les salons du grand vapeur et que maman faisait chaise longue dans l'habitacle d'Agostini qui donnait sur la passerelle. Nous étions en 1891 ou 12. J'avais 4 ou 5 ans, et on ne voyait que moi à bord, escorté de mon matelot, ce bon géant qui faisait mes 36 volontés, et n'était-il pas mon complice? Ne devions-nous pas visiter New York ensemble? N'étions-nous pas amis tous deux?
Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie, a dit Sandrard. Alors pour écrire, il faut vivre, ailleurs, loin. Après Naples ou Alexandrie, le jeune Freddy part donc en Russie, de 1904 à 1907 auprès d'un horloger suisse de Saint-Pétersbourg. Là-bas, il tombe amoureux d'Hélène, qui va mourir tragiquement. Après quoi, il entre en littérature par la poésie. Une entrée nimbée de mystère et de légende, puisque son premier poème, La légende de Novgorod, personne ne l'a jamais vraiment lu. Pourtant, son auteur n'a eu de cesse de revendiquer l'avoir publié en une dizaine d'exemplaires en Russie, mais le texte a disparu sans laisser de traces. En 1907, Freddy est de retour en Suisse, à Berne, où il tente des études de médecine, puis de lettres. Là-bas, il fait la connaissance d'une étudiante polonaise, nommée Fela, qui deviendra par la suite sa femme. C'est avec elle, en 1911, qu'il se retrouve à New York, sans un sou vaillant, puis il rentre à Paris, un poème sous le bras, « Les Pâques à New York », publié en 1912, qui va marquer les esprits. Un an après, il publie la prose du Transsibérien sous la forme d'un étonnant poème vertical, long de 2 mètres, avec des gouaches de son amie Sonia Delaunay. À cette époque, dans la capitale, poètes et peintres fraternisent, à même le pavé de Montparnasse, et s'attachent à libérer les imaginaires. Sandrard fréquente alors Soutine, Modigliani, Satie, Chagall ou Apollinaire. Le temps est à l'avant-garde, un temps d'avant la guerre.
s'était fait connaître après la guerre par d'autres coups d'éclat, et d'abord par ce coup d'éclat, si on peut parler ainsi, qui est sa blessure, n'est-ce pas? C'est un Suisse, il s'est engagé volontaire dans l'armée française, il a été au bout d'un an blessé sur le champ de bataille à l'assaut des tranchées allemandes, et il a perdu son bras droit. Alors il a lui-même donné plusieurs explications à cet engagement. Ce que je retiendrai peut-être d'abord, c'est une volonté de rompre avec les milieux littéraires parisiens, le transsibérien et sa place. C'est quelqu'un qui était remuant, Sandra. Hein, quand il était là, certainement qu'il dérangeait aussi quelques situations acquises. Et donc, il a vécu ces quelques années, très brèves années d'avant la guerre, de 12 à 14, comme une sorte de guerre, de rivalité en ce qui concerne les tendances, la direction, les directives, qui sera le poète. Bref, c'est un moment tout à fait clé dans le parcours de Sandra. Il a perdu son bras droit. Il sera désormais gaucher. Lui qui était droitier, il écrira de sa main gauche. Et ça se racontera beaucoup, je dirais, dans le tournant de création qui commence après la blessure. Il deviendra le poète de la main gauche. Et ce n'est pas simplement un changement de latéralité. C'est aussi l'occasion, effectivement, d'une réinvention de soi. Après la blessure, il y a eu une période, je crois qu'il a vécu très difficilement. Il dit avoir eu des envies de suicide. Il a mené une vie, alors là, de bourlingue, buvant. Et puis, en 1917, date clé dans le parcours de Sandrard, il quitte Paris. Quitter, toujours, c'est un geste pour lui libérateur. Il faut quitter. Quand tu aimes, il faut partir. Bon, là, il va avec sa famille, sa femme, sa première femme et leurs deux garçons. Myriam n'était pas née encore. Ils vont à Méréville, qui est une petite ville au sud d'Étampes. Ils passent l'été là. Il arrive désemparé. Parcourt les champs comme un fantôme, dit-il, ou à peu près. Et puis un jour, il se remet à écrire. Il écrit quelques textes tout à fait essentiels pour lui, notamment la fin du monde filmée par l'ange de Notre-Dame. Et alors, cette renaissance, il a la conviction, à ce moment-là, qu'elle se fera par le cinéma. Texte fulgurant qui s'appelle l'ABC du cinéma. Il travaille avec Gans comme figurant, puis comme assistant à la roue. Il passe lui-même à la réalisation à Rome, où il tourne La Vénus Noire avec le soutien de Jean Cocteau. Le film donc est achevé et fait un fiasco monumental en Italie, d'après les quelques critiques qu'on a pu retrouver. Bref, c'est un échec. Il est là sur les traces de son père, effectivement. L'inventeur malheureux. Et dans cette période, après 21, entre 21, 22, 23, il est à la recherche, en somme, d'une voie nouvelle. En 24, effectivement, il rencontre des Brésiliens. Un Brésilien, lui, richissime, Paulo Prado, empereur du café à São Paulo, lui propose de l'inviter à São Paulo. Bien. Il prend la fuite. On lui propose de partir. Il part au Brésil. Mais c'est comme une rupture à nouveau avec les milieux littéraires parisiens. Dada et surtout le surréalisme. Il laisse la place, il quitte la place, effectivement, qui désormais est occupée par Breton et ses amis. Sur le bateau, il écrit « Feuille de route », qu'on a eu tendance peut-être longtemps à négliger un petit peu, qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant effectivement un de ses grands recueils. C'est quasiment le dernier, hein, c'est le dernier recueil à proprement parler. Ce sont des poèmes très précieux parce qu'ils marquent une sorte d'étape entre la poésie du monde entier, hein, les grands récits whitmaniens, et puis son premier roman, L'Or, qu'il va écrire juste au retour du Brésil. Et il est parti poète qui ne veut pas redevenir poète, cinéaste déçu, et il revient romancier.
Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. Um sono seu surgiu, em cada cor brilhou. Voltou um som então a um coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. E nossa manhã tão bela final.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Ici, pas d'attitude sentimentale, pas de romans exotiques, pas d'impression de voyage. Sandrars répartit ses souvenirs au hasard de son œuvre, brutalement, un coup de poing, ainsi qu'il convient à un bourlingueur doté d'une prodigieuse mémoire, merveilleux appareil à enregistrer les sensations et à saisir la poésie toute neuve et peut-être un peu trop extérieure, des locomotives, des turbines, des alternateurs, de la radio, du cinéma, de la dynamite, du jazz, des ballets russes, de la publicité, de l'art nègre et des bars américains. Autant de thèmes qui vont alimenter son œuvre et lui donner l'allure d'une sorte de symphonie d'acier. Quand Sandrars raconte pelle-même ses incroyables histoires, il n'est jamais atteint par le torticolis du passé, il est l'aventure à l'état pur.
À si loin, si proche, on continue de voyager à travers la vie et l'œuvre de Blaise Sandrars, grand écrivain d'origine suisse, qui a su faire du voyage un art, une rencontre magistrale, impérieuse et littéraire avec le monde et ceux qui le peuplent. Des simples, des humbles, des innocents, des fadas et des déclassés, tous ceux que Sandrars disait aimer. Mais bien souvent, le personnage de bourlingueur, clope au bec, qu'il s'est lui-même attaché à incarner à longueur d'entretien, a éclipsé l'écrivain fiévreux, avide d'horizon certes, mais surtout de mots pour dire le monde et sa folie. Pour mieux comprendre Sandrars, il faut alors retourner aux textes, aux archives que l'auteur a lui-même rassemblées dans de grandes malles et que sa dernière fille, Myriam, va précieusement conserver, transmettre et participer à faire connaître. Claude Leroy est le président de l'association internationale Blaise Sandrars.
C'était un archiviste. Et il avait effectivement sa malle et il conservait ça. Ses manuscrits, ses traces d'écriture. Et ce qu'on découvre, justement, c'est un fou d'écriture. Il rumine l'écriture longuement. Et puis, il y a des explosions. L'or, c'est très typique de cette façon d'accumuler, effectivement, une matière depuis Le général Sutter est évoqué dans Le Panama, qui a été écrit en 1914, n'est-ce pas ? Et il y pensait auparavant déjà. Donc, dès le début des années 10, il pensait au général Sutter. Et puis, il revient du Brésil en 25, il l'écrit en quelques semaines. Bon, voilà, c'est pas de l'improvisation, vous voyez, c'est autre chose que de l'improvisation. Moravagine, il a commencé avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale. On n'a pas les premiers états du texte, mais on sait qu'il y songeait parce qu'il y a des traces. Et il publie en 26. La main coupée, qui est un des volumes de la tétralogie de mémoire hein, des années 40-46, le titre apparaît en 1917-18 dans ses projets. C'est tout sauf de l'improvisation ou, je veux dire, de la désinvolture à l'égard du fait d'écrire. Le fait d'écrire, effectivement, qui ne faisait pas de lui un homme de lettres enfermé dans son bureau, et, sauf à un moment de sa vie, dans les années 40, lorsqu'il est à Aix. À ce moment-là, effectivement, il devient le moine de l'écriture qui s'enferme effectivement pour écrire les grands livres que l'homme foudroyé, etc.
Écrire, c'est pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un gagne-pain et pas le plus drôle de tous ni le plus adroit. Pas jamais j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour rattraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du troisième, du quatrième, du cinquième volume, je crois que j'en ai fait cinq, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau.
Oui, mais vous avez tout de même écrit une quantité de livres qui sont tous des histoires vraies. Et les trois derniers livres que vous avez publiés, Bourlinguer et Le Lotissement du Ciel...
Le Lotissement du Ciel, Bourlinguer, L'Homme foudroyé, La Main Coupée. Il y en avait quatre. Tu dis qu'il y en avait cinq, il y en avait quatre.
Ce sont des livres...
Ben, je trouve que ça suffit. Ça suffit d'autant plus que... On croit réellement que j'ai trouvé une formule et que je vais l'appliquer jusqu'à la fin. Les éditeurs eux-mêmes me demandent de ne pas changer. Mais moi, ça m'ennuie. J'ai besoin de faire autre chose maintenant.
C'est vraiment quelqu'un qui ne se ressemble pas, qui n'aime pas se ressembler, qui n'aime pas se suivre, donc, qui a besoin de rompre avec soi-même. C'est quelqu'un qui a refusé tout métier. Hein, dans la bourlingue, il y a le refus d'exercer un métier permanent. Faire tous les métiers, oui, mais un métier, non. Donc il n'y a pas de revenu fixe. Sinon, les revenus de son œuvre. Mais bon, c'est intermittent et puis c'est pas venu très tôt. Enfin, c'est venu à partir de l'or, hein, et par la suite. Et puis il a été journaliste, et puis il a fait des reportages. Bon. Il y a chez lui cette volonté de se réinventer. À cet égard, il me fait penser à Pérec. Georges Pérec, qui disait que chaque livre doit être un nouveau livre à tous égards. Et Sandrard, qui n'est pas un théoricien, qui n'aime pas théoriser sa pratique, la vit effectivement cette exigence de renouvellement de façon frappante, ce qui fait que son œuvre ne se laisse pas saisir aisément. Comment peut-on avoir écrit Le Transsibérien et puis Emmène-moi au bout du monde ? Et Rome ? Et les sonnets dénaturés ? Et ce sont des textes qui semblent écrits par des écrivains différents, et même des écrivains qui ne s'apprécient pas.
À bâbord, le port, pas un bruit de machine, pas un sifflet, pas une sirène, rien ne bouge. On ne voit pas un homme, aucune fumée monte. Aucun panache de vapeur, insolation de tout un port. Il n'y a que le soleil cruel et la chaleur qui tombe du ciel et qui monte de l'eau. La chaleur éblouissante. Rien ne bouge. Pourtant, il y a là une ville, de l'activité, une industrie. 25 cargos appartenant à 10 nations sont à quai et chargent du café. 200 grues travaillent silencieusement. À la lorgnette, on distingue les sacs de café qui voyagent sur les tapis roulants et les monte-charges continues. La ville est cachée derrière les hangars plats et les grands dépôts rectilignes en tôle ondulée. Rien ne bouge. Nous attendons des heures. Personne ne vient. Aucune barque ne se détache de la rive. Notre paquebot a l'air de se fondre minute par minute et de couler lentement dans la chaleur épaisse, de se gondoler et de couler à pic.
On parle un peu trop peu de la mélancolie de Sandrard. Évidemment, on le voit comme l'écrivain voyageur, bourlingueur, donc il y a quelque chose de très romantique aussi dans cette image. Hein. Mais il y a une profondeur, il y a une expérience quand même terrible. Hein. La vie de Sandrard est quand même difficile. Elle est parsemée d'épreuves. Il traverse la Première Guerre mondiale, la Seconde. C'est un blessé. Enfin, faut quand même resituer ça. Hein. Il a quand même été pris une rafale de mitraillette dans le bras droit. Donc on peut pas continuer à vivre. Peut-être on est forcément marqué par ça. Mais même bien avant, les lettres qu'il écrit à son frère. Ses correspondants dans les années 1910, on sent un profond mal-être, des moments de désespoir profond qui passent à des grandes euphories. Et je crois qu'on trouve jamais aucun texte de Sandrard dans cette espèce de bonheur de vivre absolu. Il y a toujours quelque chose, oui, de mélancolique, de triste. Il dit la difficulté à vivre, beaucoup. Et surtout dans le monde, oui, qui traverse avec ses violences, ses guerres. C'est un écrivain de la violence. Il y a énormément de violence dans les textes de Sandrard. On n'avance pas forcément de façon guirette dans la joie du voyage. On est toujours bouleversé et choqué. Et son appétit de vie, son soif de monde, on voudrait qu'elle soit utile, qu'elle soit orientée vers une conviction politique, une conviction religieuse, même une chapelle littéraire. Et non, chez Sandrard, elle ne peut pas s'arrêter à quelque chose de rationnellement utilitaire. Il y a un concept de bataille qui s'appelle la dépense inutile. Dans notre société, ce sont les deuils, ce sont les fêtes, c'est la sexualité dépravée, ce sont tout un ensemble d'activités qui n'aboutissent à rien, qui ne servent finalement à rien. Et c'est vraiment là-dedans que se dépensent les personnages de Sandrard, par exemple. Et oui, à chaque fois qu'on a voulu faire en sorte que cet appétit de Sandrard il serve à quelque chose, ou qu'il soit théorique, Sandrard s'en détourne et fait en sorte de dérouter celui qui veut le prendre dans ce piège-là. À la fin de l'écriture de ses 4 tomes de mémoire, il dit « Mais vous avez voulu que je m'enferme dans quelque chose, mais je vais arrêter. » Et il s'est mis à la radio, et ensuite il a écrit un roman, « Emmène-moi au bout du monde », qui n'a absolument rien à voir avec ces 4 tomes. Il ne veut jamais être là où on l'attend. Il fait en sorte de ne jamais être là où on l'attend.
Blaise Sandrard vous présente aujourd'hui Rythmes et bruits du monde.
Connaissez-vous les archives sonores? Ces rues d'université. Un grand immeuble coupé longitudinalement par de longs corridors est divisé à chaque étage en une infinité de petites cellules. Chaque cellule est divisée à son tour par des rayons et des cloisonnages, des casiers qui contiennent des disques, des milliers et des dizaines de milliers de disques. C'est dans l'une de ces cellules que je me suis trouvé être enfermé toute une nuit. On m'avait oublié à je ne sais quel étage, ni ne sais-je dans quelle aile du bâtiment. Personne ne m'avait prévenu à l'heure de la fermeture. Tout le monde était parti, j'étais sous clé. C'est ainsi que j'ai composé cette espèce de poème sonore que vous allez entendre, un poème fait de pièces et de morceaux, de toutes les voix, de tous les bruits du monde, des rythmes. Les rythmes, les bruits du monde, tourbillon des mouvements dans l'espace, naissance. C'est l'explosion de Nebout de la grosse Bertha sur la maternité de la rue d'Assas. Explosion qui fit tant de victimes parmi les femmes perturbantes. Les cris que vous entendez, ne sont pas ceux d'une victime, mais tout au contraire, les cris vainqueurs d'un nouveau-né qui vit, qui lutte et qui veut vivre.
Dans les années 50, se voilà donc l'ami Blaise oublié, nous dit-il, la nuit, dans les archives de la radiodiffusion française, comme un gamin qui rêve de se voir enfermé dans un magasin de jouets. Le poète est grand amateur de radio et de son, et ce Rythmes et bruits du monde, diffusé pour la première fois en 1952, est un fascinant collage sonore de cloches d'école, de hurlements de bateliers à l'épreuve, de roulis de train ou de lancements de fusées. Pour la radio, Sandrard va écrire 3 pièces radiophoniques avec la complicité d'un grand homme de radio français, Paul Gilson. Il a alors plus de 60 ans et ne voyage plus, sauf sur les ondes.
Blaise, pour compléter notre périple musical aux Indes occidentales, je t'ai apporté aujourd'hui des enregistrements de Porto Rico et de Haïti, effectués à l'occasion du premier festival Caraïbes de Porto Rico.
Les voyages donnent soif, Raymond. Verse-moi encore un peu de rhum blanc. C'est une idée singulière que d'avoir accouplé Puerto Rico, l'île qui avec Cuba a été transformée le plus radicalement par la civilisation américaine, et Haïti, l'île qui a su se défendre le mieux contre les influences européennes et garder jalousement le patrimoine religieux et artistique qui lui vient des Africains.
Pourquoi, Blaise ?
Je n'en sais rien, parce que les deux dieux noirs voulaient qu'il en fût ainsi. Tiens, écoute ceci.
Dans la vie de Blaise Sandrard, il n'y a pas eu qu'une seule femme, loin s'en faut. Mais Raymond tient définitivement une place à part. Raymond Duchâteau, une actrice suisse qu'il rencontre dès 1917 et dont il va tout de suite tomber amoureux. Mais Raymond refuse sa demande en mariage pour finir par l'épouser en 1949. De son côté, Sandrard a refusé le costume de père depuis bien longtemps déjà. Il aide matériellement sa première femme et ses enfants, mais la distance se fait absence.
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton amie, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
L'histoire de la reconnaissance de Sandrard, qui est relativement tardive, pas auprès des écrivains. Les écrivains, Michaud, Henri Miller, Malraux, Apollinaire, ont reconnu en lui l'interlocuteur. L'école, non. L'université, non. Le journalisme, non. Vous voyez qu'un homme un peu... Bon, puis le personnage... Hein.
C'est ça aussi, c'est que son personnage lui a joué des tours. Peut-être lui-même en a-t-il joué, forcément.
Il jouait beaucoup de son personnage pour se cacher, pour cacher son œuvre. C'est un grand pudique. Derrière cette exhibition de la légende, c'était un grand pudique. Et il n'aimait pas parler, en particulier, il n'aimait pas parler de son travail d'écrivain. Il ne se montrait pas en train de travailler, en train d'écrire.
Quand on lui demandait d'ailleurs, je crois, il racontait ça, quelqu'un lui avait demandé un quidam. Pourquoi écrivez-vous, monsieur Sandrard ? Il avait répondu.
Parce que. On n'a pas à se justifier. Mais en même temps, C'est-à-dire que c'est une nécessité absolue.
Et en même temps, ce parce que, c'est ce qui va susciter chez vous et chez beaucoup d'autres, et même chez le lecteur, le désir de vouloir comprendre le pourquoi.
Oui, parce que ne suffit pas, mais conduit vers, vers l'enquête.
Vous, ça fait 50 ans
ça oui,
se dit
oui,
à oui, peu près, Claude oui, Leroy, que vous oui. Naviguez à travers la littérature et la vie aussi de Blaise Cendrars. Qu'est-ce qui vous a happé dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous retient?
Oui. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre de façon simple. Je crois qu'effectivement, c'est devenu quelque chose qui est de l'ordre du compagnonnage, quelque chose de la relation. Alors, se prétendre l'amitié d'un écrivain qu'on n'a pas connu, c'est évidemment très présomptueux. Mais c'est de l'ordre de la relation personnelle. Donc, moi, je ne suis pas du tout un bourlingueur. Je peux voyager. J'ai refait quand même la plupart de ces voyages. Je suis allé au Brésil, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Saint-Pétersbourg. Donc, il y a une figure qui apparaît dans l'homme foudroyé au lecteur inconnu. Il donne des notes, il pose des questions. Là, ça, je ne répondrai pas. Ça, chercher de ce côté-là. Je crois que c'est une œuvre en dialogue. En dialogue de façon multiple. Et c'est ce dialogue dans lequel je suis entré. Donc c'est un dialogue de vie pour moi, si vous voulez, que l'œuvre de Cendrars. Beaucoup plus qu'une affaire d'approfondissement de la connaissance. Il y a toujours des choses à trouver, naturellement. Mais c'est une œuvre vivante et avec laquelle je vis. Alors, c'est quelque chose qui peut fasciner, si vous voulez, les jeunes lecteurs ou les jeunes lectrices d'aujourd'hui, que cette exigence, justement, de lutte contre tout ce qui vous contraint. C'est une école, c'est pas le mot, mais enfin, c'est un lieu de liberté, Cendrars. Il libère. Je crois que ça, c'est quelque chose, effectivement, qui parle de Cendrars aussi. Ce que Cendrars veut, enfin souhaite, c'est libérer son lecteur. Je le ressens fortement. Lisez et libérez-vous.
Une bourlingue avec Blaise Cendrars, c'était un épisode de Compagnons de route, série radiophonique de portraits d'écrivains voyageurs de si loin si proche. Un grand merci à Claude Leroy, Bastien Mouchet et à toute l'équipe du festival aux quatre coins du monde de la Charité-sur-Loire. Merci aussi à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour ses archives, à commencer par celle du grand entretien entre Michel Manol et Blaise Cendrars de 1950 que vous avez entendu dans cette émission. Céline Develay-Mazurel, Laura Larion vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de RFI. Et en attendant, n'oubliez pas, chers auditeurs, de nous écouter en podcast. Merveilleuse façon de voyager en tout lieu et à toute heure.
7 milliards de voisins.